On n'a pas fini le spécial continue sur France Inter. Le 18-20 continue. Je voudrais qu'on termine cette heure avec vous, Jean-Marc Four. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir
le
à
monde
tous.
À l'envers. Comme tous les soirs. Et cette fois, vous aussi, donc, vous avez décidé de mettre le nez dans la démission de Nicolas Hulot. En se disant que peut-être, depuis ce matin, on se pose pas la bonne question. Ou en tout cas, on se la pose à l'envers. Parce que cette question, on l'a un peu évoquée ici autour de nous, autour de cette table, part d'un présupposé. C'est que donc, les gouvernements ont le pouvoir sur l'écologie. Et vous vous dites, eh ben non. Au fond, les gouvernements n'ont pas le pouvoir.
Oui, là, on va rebondir sur tous les thèmes que vous venez d'aborder. En fait, faisons simple, repartons effectivement de la question posée ce matin par Nicolas Hulot sur France Inter. Je cite, c'est une question de démocratie. Qui a le pouvoir? Sous-entendu, c'est tout de même au pouvoir politique de décider. Bah, si on sort de la petite controverse politique franco-française, on peut effectivement soutenir l'idée que, aujourd'hui, sur le climat et l'environnement, les gouvernements n'ont pas pris le pouvoir. C'est pas seulement le bilan de Nicolas Hulot qui est modeste, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le bilan global des politiques à l'échelle mondiale. On passe sur les beaux discours à chaque édition de la COP, on regarde les faits, prenons l'Europe, le glyphosate échec, et c'est sans compter de très nombreux autres produits chimiques en circulation sans réel contrôle. La pollution de l'air, tous les grands pays européens ont été épinglés par Bruxelles au début de l'année pour non-respect de la directive sur le sujet. L'abandon du carbone, aucune évolution vraiment structurelle depuis 20 ans. Notre voisin allemand en particulier ne parvient pas à s'en débarrasser. Alors pourquoi ce bilan politique médiocre malgré l'urgence climatique? On peut avancer deux explications. Un, il n'y a pas de gouvernance mondiale. Pourtant, c'est bien le sujet qui le nécessiterait. Et l'Union européenne, par exemple, juge plus important de refouler les migrants que de sanctionner les pollueurs. Deux, il y a un problème crucial de temporalité. C'est-à-dire que les gouvernants veulent des résultats à court terme, si possible pour gagner la prochaine élection, hein, soyons cyniques, là où l'environnement nécessite une politique à long terme.
Donc ça veut dire que sur l'environnement et le climat, le pouvoir, il est ailleurs.
Oui, aujourd'hui en tout cas. C'est-à-dire qu'il est économique, macroéconomique et microéconomique. Je m'explique. La macroéconomie d'abord, vous l'avez évoqué là aussi tout à l'heure. L'avenir de notre planète repose en grande partie sur l'attitude des entreprises. Il y a un début d'espoir. 9 multinationales sur 10 considèrent désormais que l'environnement est une priorité, l'ont inscrit pour nombre d'entre elles dans leurs objectifs financiers. Et je parle pas là des milliardaires déjantés qu'évoquait tout à l'heure Dominique Bourg.
J'allais dire Dominique Bourg est en train de sûrement de pester depuis
le vent. Il faut évidemment ajouter l'industrie automobile qui détient une clé majeure, on le sait, l'abandon des énergies fossiles et des véhicules à essence. Faut pas s'y tromper, ce n'est pas de la philanthropie, c'est de l'intérêt bien compris à opérer la conversion. Ce sont les marchés de demain. Et là, contrairement aux gouvernants, vous avez des grandes entreprises qui résonne à 15, 20, 30 ans. En plus, il y a des fonds de pension qui tentent à investir de plus en plus dans les énergies renouvelables. La microéconomie ensuite, c'est le pouvoir de vous et moi. C'est sans doute là peut-être où l'écologie progresse le plus. Les associations, les initiatives locales, vous évoquez les procès contre Monsanto. On pourrait prendre un autre exemple, les circuits courts dans l'alimentaire, ce qu'on appelle les AMAP. La France en possède désormais 2000, ce qui veut dire à raison de 120 adhérents environ par AMAP, de l'ordre de 250 000 personnes concernées quand même, c'est pas rien. Et là encore, en fait, ce qui est à l'œuvre, c'est un raisonnement à temporalité longue, c'est-à-dire préserver sa santé et celle de ses enfants.
Donc, et on peut le déplorer, mais toujours est-il, c'est un constat, le politique n'a pas la main, c'est ce que vous dites.
Écoutez, en théorie, les dirigeants politiques peuvent beaucoup, par les incitations fiscales, par la commande publique, par les accords commerciaux, on l'a dit, en théorie. Dans les faits, aujourd'hui, le politique n'est efficace sur le sujet que dans deux cas de figure. Le premier, c'est le régime autoritaire. S'il le décide, précisément parce qu'il peut s'engager, lui, sur des durées longues. Ça peut ne pas plaire, ça peut choquer, mais c'est comme ça. Exemple type, la Chine, à un moment donné, elle décide la pollution, ça suffit. Donc, incitation financière considérable pour les voitures électriques. Résultat, aujourd'hui, dans le monde, une voiture électrique sur deux est vendue en Chine et la part des énergies fossiles est en train de diminuer sensiblement dans l'industrie chinoise. Deuxième cas de figure, les pouvoirs locaux, les municipalités. Vous avez des petites villes, vous avez des grandes métropoles aussi, comme le groupe C40, qui regroupe de grandes capitales. Là encore, il y a du volontarisme pour réduire le trafic automobile ou les déchets. Mais il faut dire que l'électorat dans ces grandes villes est plus aisé, plus sensible au sujet, moins tributaire aussi du transport automobile. Et en revanche, de nombreux gouvernements des démocraties libérales, qui pourraient montrer l'exemple, semblent inefficaces sur le sujet. Ils sont plus préoccupés du court terme électoraliste que du moyen terme planétaire.
Merci beaucoup Jean-Marc Four.